Canalem, on aime l'été. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde ici au micro de Canalem accompagnée de l'ami Luc Fortin. Salut Luc!
Excellent indicatif musical.
Ah, je suis content.
Vraiment, vraiment, parce qu'on avait discuté Clotilde et moi et ma proposition était moindre que celle-là. Tout à fait, j'assume.
Mais ça c'est Christine Tasson et les Imposteurs et ça fait partie de leur dernier album. Puis ma foi, on aime aussi pousser les amis, surtout qu'elles nous l'ont offert. On n'a pas à payer des droits, tout ça, alors c'est vachement sympa de leur part. Ouais. Alors aujourd'hui, rapidement, à l'émission. Luc, donc vous allez vous entretenir dans quelques secondes avec Mathieu Papillon, journaliste au sujet de capsules sur l'accessibilité. On va d'ailleurs en entendre une, du moins un extrait. On va avoir Karine Bouzilacci, j'espère que je prononce bien, qui va nous parler d'autres capsules. Il s'agit d'un caillou dans le sac, qui sont des capsules pour mieux comprendre les troubles d'apprentissage. Voilà pour la première demi-heure. Qu'est-ce que vous en dites si je garde la surprise pour après?
Hein? On va quand même dire qu'on parle de foufoune, les gens aiment ça savoir ça.
Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà, la table est mise, comme on dit. Alors, on va tout de suite se préparer à cette première entrevue, mais avant, ceci.
My dear Lorenzo, you take my hand and understand the tears that I have cried. We light the candles and pour the wine and laugh as if you'll never leave my side. You take me in your arms and tell me that I'll always be the only one. And then you're gone. Come to see me on a Saturday, presenting peonies, knowing just what to say. We dance until the break of dawn. I turn my back and then you're gone. Swirling in a sea of stars, twirling to the strum of guitars. No one tangles quite the way you do, but now my dancing days with you are through. You think I miss you each time you disappear. Maybe I used to, but it's becoming clear. I know your tricks, I've heard your song. You swear your love and then you're gone. Outside my door, you want back in, just like before. Well, save your breath, don't make me yawn. You've had your chance. Now just
comment être discrète, hein?
On sait que vous voulez bien faire.
Que c'est juste pour être gentil.
La plupart du temps, vous êtes bien intentionné.
Mais des fois...
Des fois...
Ça gosse. Des fois, souvent, on s'adresse à la personne debout avant de s'adresser à moi. Pour des questions qui me concernent.
Et en plus, il répond à leurs questions, puis il continue à répondre à l'accompagnateur.
Je suis ici.
Pourquoi vous me parlez pas à moi? Je suis capable de vous entendre puis de vous répondre.
C'est l'affaire la plus gossante au monde.
Des fois, les gens, ils me posent des drôles de questions. Genre, si t'es perdu en forêt, puis que t'entends rien de rien, là, ben les animaux sauvages comme les ours, les lynx, les cougars, name it, ben là, je veux dire, c'est dangereux, c'est un risque à prendre, ils peuvent t'attaquer. What the fuck?
Des fois, il y a du monde qui pense que je suis perdu, puis là, ils me prennent par le bras, ils me demandent pas où est-ce que je vais. Ils devraient me le demander, peut-être qu'on va pas à la même place.
Des fois, il y a des gens qui me raccrochent au nez parce qu'ils pensent que je suis seule alors que je suis parfaitement sobre. J'ai juste un problème d'élocution. Si j'étais seule, ils vous appelleraient pas.
Des fois, il y a du monde qui s'adresse à moi comme si j'avais 7 ans. Comment ça va aujourd'hui?
Bravo, t'as fini ton assiette, tu vas avoir droit à un dessert.
C'est parce que madame, j'ai 27 ans.
Extrait d'une capsule que vous avez peut-être vu passer sur Facebook, proposée par RAD, cette plateforme plutôt jeune tendance de Radio-Canada, pour en parler Mathieu Papillon. Mathieu, quel est le signe LSQ de What the fuck?
Ah mon Dieu,
parce que c'est une personne sourde.
Oui, je le sais, mais on l'a, ouais, tout à fait, puis on l'a appris, là, je pourrais vous le mimer, mais je ne l'ai pas retenu complètement. Mais ça, beaucoup, ça a été souligné. Regardez cette capsule-là, c'est instructif, vous allez rire, mais vous allez aussi apprendre le signe en LSQ pour What the fuck.
Ouais, 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 c'est quand même étonnant.
Ça marque l'imaginaire, disons.
C'est très, très bien fait. Ça,
merci.
Ça parle fort. Quelle est l'idée de départ? Bon, c'était presque en lien avec la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça, ça a été lancé le 23 mai, si je me souviens bien.
Oui, 23-24, exact.
Est-ce qu'il y avait un lien ou c'est un hasard?
C'est un peu un hasard. C'est-à-dire que nous, c'était pas nécessairement de faire des contenus. L'idée, c'était pas de faire des contenus dans le cadre de l'occasion de cette
Semaine
québécoise
des personnes handicapées. Parce que vous en avez fait un dossier, là,
on a fait un dossier, c'est ça. RAD, donc, qui est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne par dossier. Et il y a ce dossier-là que j'avais en tête depuis quand même un bon bout de temps sur l'accessibilité, sur les personnes qui vivent en situation de handicap. Mais parce que nous, ce qu'on fait souvent à RAD, c'est qu'on essaie de voir les sujets qui sont dans l'angle mort un peu, dont on parle peu. Puis il y avait cette idée-là chez moi de parler des sujets, des revendications, disons, des combats de ces personnes-là en situation de handicap, mais dont on parle peu souvent, qui souvent sombre dans l'oubli un peu du point de vue médiatique, dans les médias plus généraux, disons. Donc, on parle beaucoup, évidemment, puis avec raison, c'est des sujets qui sont fondamentaux, là, mais de l'accès au logement pour les personnes qui sont en situation de handicap physique, de l'accès aux transports en commun. Donc, évidemment, qu'on en parle parce que c'est hyper important, ça fait partie du quotidien, mais je me suis dit, il y a sûrement et fort probablement des combats dont nous, personnes sans handicap, voyantes, entendantes, on n'a pas idée et on voulait mettre en lumière un peu ces combats-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé des recherches en parlant avec des personnes aveugles, des personnes sourdes, des personnes en situation de handicap physique. Et il y avait notamment, ce qui revenait souvent, c'est que l'ignorance était un problème au quotidien. C'est-à-dire que les gens sont pas mal intentionnés, on l'a entendu au début de la capsule qu'on vient d'entendre, là, mais les gens veulent pas mal faire, c'est pas de la méchanceté, mais souvent c'est de l'ignorance qui crée des situations un peu irritantes, puis quand c'est répété au quotidien, ben ça devient des irritants qui sont quotidiens, puis à la longue, ça peut devenir un peu lourd. Donc, c'est comme ça que cette idée-là est venue de créer cette capsule-là qui s'appelle « Des fois, ça gosse » pour parler de c'est quoi ces situations-là qui gossent, qui énervent. Puis vraiment, vous l'avez entendu, là, ils l'ont fait avec un énorme sourire en coin. Le but, c'était pas d'être moralisateur du tout.
Non,
là.
C'est ça.
Vraiment pas.
Parce que c'était une de mes craintes, à savoir la personne. Moi, je sais que chaque fois que je suis interviewé, on me demande comme première question, Luc, est-ce que c'est correct de dire personne aveugle au lieu de semi-voyant, handicap visuel, blablabla. Et j'espère juste que les gens ne vont pas se retenir d'aider par peur de mal s'y prendre. C'est un petit peu ma crainte, mais comme journaliste, toi, c'est pas ton problème et je pense que vous avez très, très bien rendu ça.
Non, c'est ça, puis c'est vraiment de donner la parole à ces quatre personnes-là. Oui, donc, on avait Jérôme qui est non-voyant, on avait Pierre-Olivier qui est malentendant, Maude qui a la paralysie cérébrale et Marilyn qui est en fauteuil roulant. Puis vraiment, les quatre qui ont été super bons, qui ont été punchés, qui ont été drôles. Puis eux, vraiment, ils avaient leur message à livrer, puis le but, c'était vraiment juste de leur donner le crachoir.
Mais ça a dû leur faire beaucoup de bien.
Ben, tout à fait. Puis la réaction aussi, je veux dire, nous-mêmes, on est vraiment sidérés par la réaction, à quel point ça a circulé.
Mais qui a décidé comment le construire?
Ça, c'est du travail d'équipe, je vous dirais. C'est-à-dire que moi, au début, on s'est dit, OK, on veut parler à une personne qui est malentendante, une personne qui est non-voyante, une personne en situation de handicap physique. Après ça, en parlant avec des intervenants dans le milieu ou des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap physique, ben, il y a les personnes en fauteuil roulant. Puis il y a les personnes, par exemple, comme Maude, qui n'est pas en fauteuil roulant, qui a l'appareil cérébral. C'est deux réalités qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Alors, nous, c'est
parce que Maude est debout.
Exact,
ceux qui
c'est ça.
Pas
tout à fait. Ben oui, tout à fait, effectivement. C'est pas comme si la Terre entière la connaissait, non, non. Même si elle est très impliquée, Maud. Elle est très connue aussi. Donc, c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, on a quatre personnes. Puis, en parlant avec ces quatre personnes-là, je me suis dit, OK, elles sont allumées. Oui. Elles sont vraiment capables de livrer avec aplomb, humour, ce discours-là. Donc, nous, on s'est dit, faisons, on a tourné. On a prévu, quoi, une heure environ avec chacune de ces quatre personnes-là. Puis, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des discours qui se recoupaient. Par exemple, la fameuse question de les personnes qui parlent à l'accompagnateur plutôt que de parler à la personne elle-même, ça revenait constamment. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé, avec le montage, faire des liens entre les expériences vécues par chacune des personnes dans cette vidéo-là. Puis donc, on a voulu vraiment garder ça à sa plus simple expression. Là. Les personnes sont devant un fond de couleur puis s'expriment directement à la caméra. Donc, vraiment, ce qui primait là-dessus, c'était le contenu. Puis
mais l'écriture, message. Parce que, par exemple, quand ce type qui est sourd-muet nous raconte cette mésaventure, en tout cas, cette pseudo-mésaventure, what the fuck, à la fin, est-ce que c'était écrit par lui? Vous avez fait ça ensemble?
Non, c'est leur histoire, c'est eux d'accord. qui racontaient. Okay. Puis
c'est une véritable question qu'on lui a posée. Quand t'es en forêt, t'entends pas les animaux. Les gens ont vraiment des préoccupations de base. Hein?
Oui, puis des fois, c'est ça, d'où le what the fuck. Après, ça sort d'où, cette histoire-là? Mais donc, oui, c'est vraiment, c'était leur message à eux. On l'a repris, des fois on le reformulait pour que ce soit plus concis ou plus rapide, mais vraiment ce sont leurs messages à eux sans intervention.
Marilyn Turcot, je ne suis pas surpris que le dossier ait inclus également de la culture, parce qu'il n'y a pas que cette petite vidéo-là.
Vous avez raison de mentionner. Donc, notre deuxième contenu, c'était sur l'accessibilité culturelle, un concept, je le dis moi-même d'entrée de jeu dans la vidéo, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous parlais de combats qui peuvent échapper à bien des gens, je n'avais jamais entendu parler de ça, et pourtant, je veux dire, suffit d'y penser. Donc, l'accessibilité culturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des moyens concrets pour faire en sorte que les spectacles de musique, les expositions, par exemple, les pièces de théâtre, soient accessibles à tous, à tout le monde. Donc, on s'est rendu à un spectacle de l'artiste Samuel qui avait fait traduire justement son spectacle en LSQ. Il y avait deux interprètes qui se relayaient, une après l'autre, et qui interprétaient chacune des chansons, parce que c'est quand même un pas pire mandat, là, quand on demande d'interpréter tout un spectacle de musique. C'est de la poésie, c'est difficile. Donc, on s'est rendu là, il y avait plusieurs personnes sourdes qui étaient là et qui étaient hyper contentes, parce qu'enfin, pour une très rare fois, on leur offrait la possibilité d'assister à un spectacle de musique. Puis on s'est rendu au Musée des Beaux-Arts aussi, qui offre des personnes des visites plutôt pour les personnes non-voyantes. Et donc, les œuvres sont décrites. Il y a certaines sculptures qui peuvent être touchées, même en enfilant des gants, bien sûr, mais par les personnes, par les visiteurs non-voyants. Donc, ça aussi, c'était super important. Puis de parler du fait que, oui, il y a des initiatives qui existent, mais on avait Véro Leduc, prof à l'UQAM, elle-même une personne sourde, qui nous disait il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire que faut d'abord que les personnes sourdes ou les personnes non-voyantes sachent que ça existe, des initiatives comme celle-là. Sinon, à quoi ça sert? Mais il y a aussi, tu sais, les gouvernements sont encore peu sensibilisés à l'importance de ces mesures-là, c'est-à-dire on va prioriser le transport, comme je disais tantôt, le logement, mais la culture, c'est peut-être vu comme un besoin en bas de la liste encore. Donc oui, c'est un enjeu vraiment important, puis il y a un des contenus qui est consacré à ça. Là.
Une des choses qui est dommage, c'est qu'on t'invite parce que, en fait, on ne devrait même pas t'inviter. mais on t'invite et j'aimerais ça parce que, bon, pour cette fois-ci, on n'a plus le temps, mais j'aimerais parce qu'une des questions que l'on se pose ici, c'est comment faire parler de la limitation fonctionnelle davantage? Comment faire en sorte que les médias s'intéressent à nous? Parce que je pense que tu es d'accord que si on prend la culture, si on disait les Juifs ou les personnes noires ne sont pas acceptés dans tel ou tel endroit, on décrirait, on serait dans... En fait, le problème serait réglé. Mais que ce ne soit pas permis aux gens en fauteuil roulant, ça, on n'a pas d'argent, on s'excuse. Ça n'a aucun sens.
Alors, je comprends la revendication, tout à fait.
J'aimerais ça qu'on, un moment donné, là, faut que toi et moi et d'autres, on revienne pour essayer de voir comment faire entendre ce message pour être intéressant. Mais pour ce qui a été fait sur la page RAD, vraiment, coup de chapeau.
C'est de bon goût,
c'est incisif.
C'est fantastique.
Avec un petit sourire en coin.
Ben oui, tout à fait.
Mathieu Papillon, journaliste de Radio-Canada. Donc, vous allez voir, il y a plein de petites choses comme ça. RAD aime ce ton jeune, ce ton proposé à ceux qui peut-être n'aiment pas écouter la nouvelle dite traditionnelle.
Voilà, vous avez tout compris.
Merci.
Merci à vous.
En sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière, et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Apprendre demeure difficile, voire souffrant pour certains enfants et adolescents qui présentent un trouble d'apprentissage. Parfois, le sac est lourd à porter.
C'était ça aussi l'idée d'appeler ça un caillou dans le sac d'école. C'était de le mettre un peu à côté de soi, là, le trouble d'apprentissage, puis dire « Attends, là, je vais le regarder dans tous les sens, ouais, le jauger, ouais, le comprendre, le connaître. » Mais je suis beaucoup plus que ce trouble-là et je peux m'adapter aux défis qu'il me pose.
Et tu n'es pas un caillou.
Non.
Ça, il y a le caillou et il y a moi.
Exact.
Voilà. C'est... Merci.
La voix de Francis Reddy qu'on vient d'entendre et surtout ces capsules, cette série Un caillou dans le sac d'école, ça nous a semblé extrêmement intéressant. Assez pour parler à Karine Buzilacci. Est-ce que je prononce bien votre nom, Karine?
Buzilacci, oui, merci.
Pardon, Buzilacci, d'accord. Voilà. Bon, alors on ne savait plus. Deux C avec un H, on ne savait plus. Alors désolé, je ne le ferai plus. Comment?
C'est joli.
Oh, c'est très, très beau, ouais. Buzilacci.
Oui, c'est italien.
Oui, ben oui, j'imagine. Alors, voilà. Vous êtes orthopédagogue,
oui, hein,
et vous travaillez à l'hôpital Sainte-Justine.
Voilà.
Et c'est d'ailleurs l'hôpital Sainte-Justine qui est à l'origine de ce projet Un caillou dans le sac, pour lequel Francis Reddy, on vient de l'entendre, est votre porte-parole. Alors, le caillou dans l'école, je voudrais faire une parenthèse. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit toujours déjà que nos sacs d'école sont trop lourds. Je me souviens, quand j'étais petite, ma sœur avait des problèmes de dos, notamment à cause de ça, parce que c'est vrai que c'est déjà très lourd. Mais vous, dans votre cas, c'est pour ça que j'ai aimé cette image, c'est que c'est encore plus lourd que lourd.
Oui.
Lorsqu'on est un enfant qui a un problème, qui vit avec des troubles d'apprentissage, hein, c'est bien ça.
C'est ça. C'était ça l'idée d'appeler ça un caillou dans le sac d'école, ouais, un peu comme avec l'image du caillou dans un soulier.
Ouais.
Ce qui fait que se déplacer, apprendre, cheminer sur le plan scolaire, c'est exigeant quand on a un trouble d'apprentissage. C'était de le reconnaître, c'était de le nommer, et un peu comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, de le dégager un peu de soi aussi, de le mettre à côté de soi, de le regarder dans tous les sens, ce caillou-là, d'apprendre à le connaître, à le jauger, à savoir quand est-ce qu'il nous pose des défis.
Parce que ça, c'est encore un sujet à démystifier, hein?
Oui. Et de se définir au-delà de celui-ci. Mm. Souvent, on va dire « je suis dyslexique » et là, c'est comme si on devient le trouble d'apprentissage. Mm. Alors qu'on peut dire « mais j'ai un trouble d'apprentissage, avoir une dyslexie, avoir ce caillou-là dans son sac avec lequel il faut composer, mais être beaucoup plus que ce caillou-là, pouvoir se définir au-delà de celui-ci, finalement.
Francis Reddy, est-ce que c'est avoué? Est-ce que c'est quelqu'un qui a lui-même vécu ça et qui, du coup, a décidé d'aider les autres?
En fait, Francis Reddy a un fils qui a un trouble d'apprentissage. Alors, il a connu de l'intérieur le cheminement avec son fils. Et il est aussi maintenant le porte-parole de l'Institut des troubles d'apprentissage. Alors, il est très concerné par le sujet. Il a fait ce travail bénévolement avec nous, là, cette journée de tournage-là. Il a été d'une grande générosité. C'est un bel humain, Francis Reddy, vraiment. Oui. Il nous a aidés à bien mener à terme là, ce tournage-là.
Bon, alors parlons de ces capsules, si vous le voulez bien, Madame Bouzilaki. Et là, je l'ai bien dit, je suis contente. Alors, on évoque tous les différents... Parce qu'il n'y a pas que la dyslexie.
Non. Hein?
Entre autres, quels sont les autres troubles d'apprentissage dont on fait mention
Il y a les troubles d'apprentissage de la lecture, effectivement, qu'on appelle communément dyslexie.
Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est?
Oui, la dyslexie, alors c'est un trouble. Alors quand on parle de trouble, c'est que c'est persistant. Hein? On va parler de persistance, contrairement à la difficulté qui, elle, peut être temporaire ou circonstancielle. Alors la dyslexie, mais finalement, c'est des difficultés importantes à identifier des mots écrits avec précision et surtout la fluidité. Là, la vitesse de lecture va être très ralentie. Dans le début de l'apprentissage, c'est tout le décodage des lettres, des sons qui demeure finalement, qui n'a jamais ne s'automatise. C'est ça la différence. Malgré l'intervention, malgré l'effort, ça va demeurer exigeant. Donc ça, c'est la dyslexie. Elle est souvent associée à la dysorthographie, finalement, qui va avoir finalement le pendant sur le plan de l'écriture. Écrire les mots avec le bon orthographe, se souvenir de... souvent, il y a un mélange au niveau des lettres qui ont un son qui est proche ou qui visuellement sont proches aussi. Une difficulté à retenir les mots qui ont des lettres muettes. C'est comme si ces empreintes-là ne s'inscrivent pas dans le cerveau de l'enfant. Alors, il a besoin de mesures pour compenser ses difficultés. C'est un petit peu ça, le petit personnage qu'on voit partout dans les capsules. Il tire sur son sac d'école. Son sac d'école est lourd et tout à coup, il met son sac d'école sur une planche à roulettes. Et il peut avancer aussi vite que les autres. Et la planche à roulettes, quelque part, elle représente les mesures d'adaptation, les stratégies qu'on va utiliser pour permettre à l'enfant de finalement apprendre faire son cheminement scolaire.
Parce que ces capsules offrent des explications, mais offrent aussi des solutions.
Voilà. Et c'est des capsules. Il y a 17 capsules vidéo. Oui. Donc, on a tout le contenu écrit sur le site de Sainte-Justine, mais il y a aussi 17 capsules vidéo. Certaines sont des entrevues avec des professionnels de Sainte-Justine. Alors, j'ai mes collègues psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes qui sont interviewés là, avec moi, avec Francis Reddy, qui abordent toutes sortes de sujets, l'impact du trouble d'apprentissage dans la routine, l'impact dans la classe, les troubles qui sont souvent associés, mais aussi comment ça peut devenir une force, ce trouble d'apprentissage-là, étonnamment, parce que l'enfant qui a un trouble d'apprentissage développe des capacités d'adaptation, de créativité, de faire autrement, énormément de persévérance. Et c'est des forces et des outils, des habiletés qui lui seront utiles après énormément dans sa vie. D'ailleurs, Francis Reddy le dit à un certain moment, ce sont des aides qui apportent énormément à la société par leur différence. Et il y a aussi une autre partie qui sont des vidéos aussi avec une explication sur chacun des troubles, sur la dyslexie dont je viens de parler, dysorthographie et la dyscalculie qui, elle, touche les mathématiques, qui est moins fréquente, qu'on connaît peut-être un peu moins, qui vient vraiment toucher la compréhension de tout le concept du nombre. Et on parle aussi des troubles souvent associés dans une autre capsule, comme le trouble de l'attention, qui est vraiment fréquent avec le trouble d'apprentissage. Et ces capsules-là sont, avec Francis Reddy, et des animations, des schémas et les petits personnages animés qui ont été dessinés par Manuel Marcotte.
Oui.
Je trouve important de le dire.
Bien sûr.
Un jeune adulte qui lui-même vit avec un trouble d'apprentissage et un déficit de l'attention, donc qui a connu la lourdeur du sac d'école dans son cheminement et qui maintenant, bon, a traversé son primaire, son secondaire, s'est cherché beaucoup à essayer le cégep, fonctionnait pas, est devenu soudeur-monteur. C'est aussi un artiste et quelque part, mais maintenant, il sait transformer les cailloux en projet de création. Alors, il a fait ces personnages-là, ils sont magnifiques sur le qu'on retrouve dans les capsules vidéo. Oui.
Karine, on parle de cailloux dans le sac d'école. Conversation entendue à un arrêt d'autobus. Il y avait quatre ados, je crois qu'elles étaient toutes des jeunes filles et une adulte. Et les gens parlaient de leurs troubles d'apprentissage. Oui. Et j'avais l'impression qu'il y avait une surenchère.
D'accord.
Et peut-être même, c'est comme, je souhaite avoir quelque chose, sinon je fais pas partie de la gang.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a un risque, justement, qu'il y en a tellement maintenant de diagnostiqués que ça devienne trivial?
Je pense pas. Okay. Je pense pas parce qu'il y a une souffrance associée à ce trouble-là. Hein. C'est lourd, le sac d'école. Donc, au contraire, je pense que moi, pour la plupart des jeunes que je rencontre dans ma pratique, des jeunes enfants, des jeunes ados, il y a vraiment une acceptation à faire. Il y a vraiment souvent des fois de la colère de vivre cette différence-là, d'avoir à faire autrement, d'accepter que ben moi, je vais avoir besoin d'une autre, de mesures différentes des autres pour y arriver. J'ai plus un tableau inverse, je dirais, moi, dans ce que je vois. Il y a quelque chose
ceux qui ne sont pas, qui ne vivent pas avec ça, sont entre guillemets bien contents et se disent ouf, au moins je suis passé à travers ça.
Oui, parce que
c'est ça que vous voulez dire.
Quand on le vit de l'intérieur comme parent ou comme enfant, on connaît l'exigence. Mm-hmm.
Mais pourquoi, Karine, pourquoi d'après vous cette explosion de diagnostics tout d'un coup, ça depuis quelques années sur ces troubles d'apprentissage? Parce que vous êtes d'accord avec moi que on parle d'explosion en ce moment là de cela.
Bien, on est quand même juste à 4 à 6 % de la population scolaire qui va avoir un trouble d'apprentissage. Probablement qu'on connaît mieux les caractéristiques, les indices aussi précurseurs et de les voir, de les repérer rapidement en bas âge, de savoir, de reconnaître ces indices-là pour tout de suite, sans donner le diagnostic nécessairement de façon précoce, mais dire « Ouf, on a des indices, il faut absolument mettre en place des interventions pour essayer de voir s'il y a persistance, comment on peut aider à... » Et je pense que ça, il faut le voir positivement en ce sens-là, parce qu'un enfant... Oui. dont on reconnaît pas le trouble, hein, parce que souvent on dit « Ah, l'évaluation, c'est mettre une étiquette ». Dans une des capsules, je le dis, si on change le mot « évaluer » par le mot « comprendre »,
ça
a un autre sens. « Évaluer », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « comprendre la difficulté ».
Oui, absolument. Karine, je voudrais qu'on rappelle en 15 secondes, c'est ce qui nous reste.
D'accord.
On peut voir ces capsules-là sur le site de Sainte-Justine, tout simplement.
Voilà, sur le site de Sainte-Justine. Vous pouvez aller sur le site dans le moteur de recherche, taper « troubles d'apprentissage » et vous allez tomber sur un caillou dans le sac.
Merci, Karine.
Vous écoutez Aime l'été.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Faut pourtant qu'elle les cajole.
qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
La complainte des filles de joie, Georges Brassens, évidemment. Sonia Boucher, bonjour.
Bonjour.
Sonia, vous êtes... On peut dire sexologue spécialisé avec les personnes qui vivent des limitations fonctionnelles. Et aujourd'hui, j'avais envie... je sais pourquoi c'est Luc qui pose les questions. Luc s'est déjà affiché comme ayant déjà profité de services sexuels payés ou rémunérés. Mais vous vouliez en parler. Ça me déplaît pas, mais ça m'étonne. Parce que j'ai l'impression que souvent, les sexologues ou les gens qui travaillent dans ce domaine-là sont plutôt hésitants à recommander le service payé par crainte qu'on tombe en amour avec la rémunérée.
Ben, effectivement, c'est l'angle que je voulais aborder.
Parfait.
Bon.
Je ne fais pas exception des autres intervenants en santé sexuelle. Et à ce titre-là, c'est pas par recommandation professionnelle, mais plutôt par observation avec les personnes.
Mm-hmm.
Et moi, à titre personnel, j'ai dû aider plusieurs personnes après à comprendre ce que c'est que le service payant, plutôt que de comprendre ce que c'est la sexualité saine. Le mal, autrement dit, était déjà fait.
Mais pouvez-vous m'expliquer? Moi, si je vais chez la coiffeuse, je m'attends pas à ce qu'elle vienne ensuite souper à la maison. Je m'attends pas à ce qu'on devienne amis. Comment se fait-il que ça prend l'aide de Sonia pour départager tout ça lorsque vient le temps de profiter de services sexuels rémunérés?
Mais pour reprendre votre exemple, la coiffeuse, vous n'avez pas de rapport intime.
Mais non.
Vous n'avez pas d'échange. Et même si elle se doit d'être très cordiale, elle n'a pas intérêt à ce que vous croyez qu'elle est votre amie.
Oui.
Tandis que il y a tellement une grande offre de services dans la sexualité payante que si la personne ne se démarque pas, simplement, le client va appeler quelqu'un d'autre, puis elle n'est pas disponible, puis il n'y aura pas de problème.
Et on est à l'aise aussi dans ce milieu-là, disons, à utiliser le mensonge pour plaire. T'es beau, t'es fin, je me suis ennuyé, donc c'est peut-être facile d'y croire.
Bon, le mensonge, je dirais pas comme ça parce que je travaille aussi avec des travailleuses de l'industrie du sexe, hein, et c'est peut-être pas le mensonge tant que la réponse aux besoins de la personne. Si la travailleuse du sexe sent que c'est ça le besoin de la personne, d'avoir un ami, de se sentir bien, etc., etc., c'est sûr qu'elle va travailler dans ce sens-là, mais ça fait partie de son travail. Et c'est ça que les clients comprennent pas toujours, surtout des personnes avec des limitations fonctionnelles qui n'ont aucun rapprochement intime avant de le payer, finalement. Donc, comment faire la différence entre « oui, c'est vraiment mon amie, elle vient chaque semaine, elle est contente, elle reste 30 minutes de plus pour jaser, je pense qu'on développe quelque chose », ou juste une amie qui pourrait éventuellement devenir une amoureuse.
Elle reste 30 minutes pour jaser ou le meter roule toujours pendant 30 minutes pour jaser?
Non, si le meter reste pas, parce que souvent les filles adaptent le temps en conséquence à cause des limitations fonctionnelles. On comprend que sexuellement, ça peut être plus long. On ne peut pas exiger un client à une heure, tu es capable de te positionner, on fait ce qu'on a à faire, merci.
Vous avez remarqué que je suis assez sans voix? Faut dire que, contrairement à Luc, je n'ai jamais utilisé de service payant, du moins pas encore, on ne sait jamais, ça peut venir, mais ben, c'est parce que j'ai un peu de mal à trouver ma place là-dedans, et parce que ça me surprend. Bon, déjà, étonnamment que des gens viennent chercher... en même temps que, bon, un bien-être intime et un certain confort, il faut que ça fonctionne à un moment donné, ces petites affaires-là, on s'entend, mais viennent chercher de l'amitié, viennent chercher de la présence. À ce moment-là, on parle vraiment des personnes handicapées qui ont besoin de se rapprocher, c'est ça? Est-ce que c'est ça le sujet de la chose? Je vous vois un petit peu interloqué, vous, Luc, mais j'ai du mal à vous suivre, voilà.
Mais, en fait, c'est que le besoin, à la base, est un besoin sexuel. Mais c'est que la personne comprend son besoin par rapport à sa sexualité, pas nécessairement par rapport à son besoin d'intimité. La meilleure solution, en tout cas, de mon point de vue, c'est l'éducation à la santé sexuelle. Définir quels sont nos différents besoins. Un besoin d'amour va être différent qu'un besoin sexuel, mais quand tu n'as jamais appris la différence ou même été en contact avec un ou l'autre, c'est difficile à nuancer.
Est-ce que c'est plus difficile? Ben, est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce qu'on vient en aide à des personnes handicapées pour pouvoir trouver chaussures à son pied, si j'ose dire?
Effectivement, au niveau des organismes, chaque personne intervenante professionnelle a le devoir de, pas devoir de résultat, mais un devoir d'accompagnement au moins des personnes au point de vue de l'éducation à la santé sexuelle. Maintenant, est-ce que tous les intervenants sont formés pour ça? Non, évidemment. Et malheureusement, les personnes doivent se tourner vers un service privé.
Et il n'y a pas de d'organisme ou de compagnie là, où tu peux appeler, où on est spécialisé dans la chose. Il n'y a pas de tarif préférentiel parce que tu as une limitation fonctionnelle et on comprend que tu as peut-être des besoins différents d'eux, contrairement à certains pays où l'assistance sexuelle est, disons, légale, peut-être même encadrée. Là.
Oui, effectivement, mais là, c'est vraiment deux sujets différents. D'un point de vue des organismes, moi, comme je vous disais, il n'y en a pas qui sont spécialisés, en tout cas pas jusqu'à présent. J'ai entendu des nouvelles qui vont venir dans le milieu lavallois à partir de septembre, donc peut-être ça va être une offre possible. Mais sinon, pour l'instant, non, il n'y a pas d'organisme spécifique à la sexualité.
Autrement dit,
chez Ex-Éco à Montréal, il y a des intervenants qui sont capables de référer à des sexologues parce qu'ils ont un bon contact avec le monde de la sexologie. Et maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement sexuel légal, ben pour moi, c'est pas nécessairement une bonne chose. Mais ça dépend de
tout. Comment?
Par exemple, en Californie, l'accompagnement sexuel qui est légal va être obligatoire à ça, une éducation, une formation sur qu'est-ce que la santé sexuelle, Donc, la personne va premièrement avoir une éducation avant vraiment de vivre des touchés avec une personne qu'on va payer. Et en plus, l'accompagnement va plus loin que ça. En Californie, on va amener les personnes à rencontrer d'autres personnes. On va les accompagner dans leur séduction. Ça me semble plus complet offrir de la sexualité.
Et si je comprends ce que l'on veut offrir avec l'assistance sexuelle dans certains milieux, c'est de t'aider à répondre à tes besoins. Donc, il y aura peut-être des moyens, des propositions, des trucs pour que lorsque tu vas ensuite avoir un copain, une copine, tu saches comment t'y prendre ou tu puisses montrer à ton copain, à ta copine, tu sois plus proactif. Ça se veut comme une série de rencontres, mais c'est pas nécessairement... t'es pas avec elle pendant 4 ans, là.
Ben, c'est ce que je comprends de l'accompagnement qui est offert dans certains endroits.
Moi, je me mets à la place d'une personne qui serait à mobilité réduite et qui, comme tout le monde, a des besoins sexuels et qui régulièrement, n'étant pas aidée par personne, à part peut-être par des proches, ça, je n'en sais rien et c'est ce que je souhaite, bien sûr, mais s'approche régulièrement, par exemple, d'une péripatéticienne, comme on dit, et à chaque fois, doit se faire dire non. Parce que la personne est en fauteuil roulant. Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous pensez que souvent, ils se font refuser ce service-là? Beaucoup non. plus qu'une personne qui est sur ses deux pattes?
Non.
Vous
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de refus. Par contre, dans certaines agences, on sait qu'il y a une fille que, avec qui elle est plus à l'aise avec les personnes en situation de handicap.
Ah. C'est ça, c'est qu'au téléphone, non. Il va y avoir déjà okay. Un triage dans
oui,
les besoins.
Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui travaillent à leur propre compte.
Ouais, ouais.
Mais rarement, elles refusent des clients. Donc, encore moins pour une question de fauteuil. Là.
Ouais.
Donc, je pense que les raisons de refuser un client sont très loin du handicap.
Sonia, je ne connaissais pas le documentaire « Rencontre populaire ».
Particulière.
Oui, c'est PLRS en braille. OK, particulière.
oui.
Ça, c'est nos abréviations à nous. Parlez-moi de ce documentaire.
En fait, je voulais surtout vous parler d'un cas, si vous écoutez ce documentaire-là, on démontre un jeune garçon qui, justement, a eu besoin de beaucoup d'interventions sexologiques après avoir fait appel à des services d'une escorte parce que pour lui, c'était son amoureuse. Et à chaque semaine, il attendait son rendez-vous avec son amoureuse. Et là, on parle d'un handicap intellectuel. Donc, tout le besoin d'éducation n'a pas été comblé avant ces rencontres-là.
Ouais.
Mais en même temps, c'est une bonne intention des parents de dire, bon, il y a ce besoin-là, on va y payer une escorte, puis ça va être comme ça. Fait que l'intention est bonne, mais c'est important. Là, l'éducation en amont est très importante.
Je peux voir ça où, à Rencontre particulière? C'est quoi? C'est l'OMS?
Il faut le googler.
Okay.
Je m'excuse.
Mais sur Internet, là, vous me dites que d'accord, c'est dispo sur Internet.
Je pense bien que oui. Donc, c'est Rencontre particulière, c'est québécois. Là, c'est un documentaire québécois.
Merci beaucoup, Sonia Boucher.
Mais oui.
C'est surtout, je vous demande à titre de contre-exemple, l'étude de cas du garçon.
Je comprends.
Évidemment.
Je comprends. On vous a vraiment lancé à gauche et à droite. Hein. On était loin de votre plan, mais ça a été éclairant.
Aucun problème, ça m'a fait plaisir.
Martin
Merci.
Forgue suit la pièce qui suit. Martin, qui est journaliste et ex-membre de l'armée canadienne.
Ça vous dit quelque chose, Martin Forgue?
Oui, mais j'arrive pas à mettre un titre sur la musique.
Eh bien, c'est d'Alexandre Desplat et c'était un extrait de la bande sonore Zero Dark Thirsty. Ouais, c'est ça, que je prononce très mal, excusez-moi, parce que mon anglais est épouvantable. Alors, je me suis dit, bon, tant pis, ça va peut-être le remettre directement, parce que j'imagine que là, tout de suite, en entendant ça, il y a des images.
Oui, il y en a, mais ça a été difficile d'identifier parce que justement, on n'avait pas les images. Oui. Donc, c'était difficile. Mais par contre, maintenant que vous le dites, là, maintenant que tu
non,
le dis...
Non, mais vos images, qu'est-ce qui vous... je me dis, il y a forcément... Oui. Moi, je ne sais pas, j'imagine de la poussière, j'imagine...
Parce que vous êtes allé en Afghanistan.
Ben oui, parce que c'est ça.
Ben là, en mettant tout ça ensemble, oui. Là, oui, là, on voit là, justement le sable, le vent qui fait lever la poussière. Ouais. On voit le paysage afghan qui, franchement... a l'air complètement extraterrestre la première fois qu'on le voit, mais ça évoque aussi, et étant donné, bon, évidemment, le film dans lequel cette musique-là a joué, ça évoque aussi des images de misère, ça évoque aussi des images de guerre, évidemment.
Bien sûr.
Ça évoque des souvenirs qui peuvent parfois être douloureux.
D'où Martin Fogg, d'ailleurs, notre invitation. Bonjour, est-ce qu'on vous a salué? Je ne suis même pas sûr.
On a commencé ça.
Ah, mais moi, je suis comme ça. Moi, je suis carré. Non, mais sérieusement, bon, on sait que vous en êtes revenu. Vous en avez parlé, entre autres, à l'émission C'est bon pour la santé, et de façon très éloquente. Ça ne peut pas laisser un homme psychologiquement indemne, hein, quand on revient d'une pareille chose. Première chose que, Luc, voulez-vous à tout prix vous demander, Luc?
Comment vas-tu? Parce qu'on se connaît.
Ça va, oui, ben oui, on se connaît. Ouais. Soyons transparents. Ben oui, ça va très bien. Beaucoup mieux. Parce que bon, j'ai passé une année assez difficile côté santé. J'en ai quand même parlé
abondamment.
Voilà. Puis, mais là, ça va beaucoup mieux. Par contre, toujours vigilant, hein, à ne pas retomber. Puis toujours vigilant aussi par rapport aux signes avant-coureurs de rechute de dépression. Ouais. Tout ça.
Parce qu'on parlait de difficultés post-traumatiques. Là.
Oui. Ouais. C'est ça. Oui, et dépression, stress post-traumatique. Alors, ça marche
quand,
ensemble.
Quand tu vous dites soyons vigilants,
oui.
Martin, vigilant sur quoi? Qu'est-ce qui peut faire que tout d'un coup, ça va remonter, ça va ressurgir, ça va...
Ben, c'est sûr que au début, bon, évidemment, ça a été beaucoup une stratégie d'évitement de ce qui peut déclencher le syndrome, le choc post-traumatique, là, les symptômes. Mais avec le temps, et c'est ce que mon médecin dit, c'est ce que la littérature dit, c'est on doit y aller plus vers une désensibilisation, donc une exposition contrôlée à certaines choses. Par exemple, moi, un des mécanismes qui déclenche, un des déclencheurs, c'était les bruits sur un chantier de construction, le marteau pneumatique. Ça en était un. Les foules trop grandes, trop grosses, le métro à l'heure de pointe, j'étais incapable de le prendre alors que c'était pas un problème avant. Mais on évite, mais ça donne rien parce qu'on se retire du monde quand on fait ça. Alors, faut s'y réexposer, mais de façon contrôlée. Puis aussi, bon, évidemment, la méditation, le yoga, la thérapie, ce sont des...
Autant d'outils.
Oui, mais
bon, on va resituer peut-être, Martin, les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es parti pour l'armée. Alors, au départ, quelle était ta motivation et combien de temps, combien d'années es-tu resté?
Je me suis enrôlé en 1999et je suis resté jusqu'en 2010.
Il me semble qu'un jour, tu m'avais raconté que c'était beaucoup par souhait, par action humanitaire. En fait, tu souhaitais sauver le monde.
Oui, alors, tout à fait. J'étais un jeune idéaliste. Là, je suis rendu un vieil idéaliste. Ouais. Mais, mais non, j'étais très idéaliste. Je voyais ça comme une alternative à, par exemple, mes amis qui partaient avec Jeunesse Canada Monde, s'embarquaient avec des ONG, tout ça. Moi, je voulais devenir casque bleu. Pardon. C'est-à-dire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque.
À l'époque,
C'était le monde pré-11 septembre. Je voulais être casque bleu.
Le Canada n'allait pas en guerre.
Oui, non, du tout. Mais c'est ça, donc moi j'avais des images de moi, casque bleu, train d'empêcher des villageois quelque part de se faire massacrer par des milices locales. Non, mais c'est vraiment ça, parce que j'avais une affinité aussi pour la culture militaire, c'est quelque chose qui me fascinait déjà. Donc pour moi c'est un peu naturel, mais évidemment la réalité a fini par me rattraper.
Combien de temps donc vous avez dit? Tu as dit?
J'étais là presque 12 ans.
Ah oui, quand même.
En fait, j'étais réservé, j'ai travaillé à temps plein, donc environ presque une douzaine d'années. Là.
Alors, j'imagine que l'armée, quand vous en parlez, quand on parle, est-ce que t'en parles comme d'une institution franchement épouvantable ou finalement, est-ce que t'es mitigé par rapport à ça?
Je serais très malhonnête de dire que c'est complètement mauvais parce que ça m'a amené là où je suis présentement au niveau de ma personnalité. Bon, quand j'étais adolescent, j'étais un nerd introverti, j'avais aucune confiance en moi. Ce qui semblerait que qui est très difficile à croire aujourd'hui. Mais, mais ce que j'ai beaucoup appris là-bas, c'était la volonté de dépassement de soi. C'était l'importance de travailler en équipe. C'est tout l'aspect fratrie de la chose que je garde. Mais de l'autre côté, c'est sûr que l'armée, elle a sa job à faire. Maintenant aussi, dans le monde dans lequel on vit, c'est la guerre. Même sans que ce soit la guerre totale, il y a beaucoup de stress, c'est les déploiements, les opérations, les exercices, l'entraînement, tout ça. Donc, c'est une vie qui reste quand même relativement stressante.
Quand un jeune te dit « je veux partir à l'armée », est-ce que tu as tendance à lui répondre « fais donc de la cuisine
» Non, pas nécessairement. C'est-à-dire, de toute façon, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais c'est sûr que j'appliquerais, disons, peut-être une espèce de principe de précaution, c'est-à-dire... Si c'est quelque chose qui t'intéresse, vas-y. Mais commence par y aller à temps partiel, voir si t'aimes ça. Tu trempes un orteil dans l'eau. Puis comme ça, si t'aimes pas ça, ben t'es pas encombré par un contrat d'engagement. Si t'es étudiant, tu peux choisir quelque chose dans l'armée qui est connexe à ton domaine d'études.
Oui.
Donc ça, c'est des choses qui... Ça peut en faire une expérience extrêmement positive. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, ben là, on pourrait entrer dans des grandes discussions politiques, pour moi, c'est une institution que je trouve quand même assez... je dirais pas non, mais c'est une institution qui est importante, qui est nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Il y a des aspects... Bon, la tradition, le protocole, tout ça, c'est des choses qui sont quand même... Parce que c'est des choses qui viennent... à manquer dans les sociétés d'aujourd'hui. Et étant quelqu'un qui aime beaucoup l'équilibre, ben, tu sais, à un moment donné, ça j'en ai retiré. J'en ai perdu beaucoup, mais j'en ai retiré beaucoup aussi.
Je crois me souvenir que tu es retourné en Afghanistan.
Oui.
D'ailleurs, je crois t'avoir interviewé alors que tu étais là-bas, c'est ça. Et je me demandais, bon, on sait que le Canada, ça ne s'est pas terminé comme on souhaitait. Hein. On n'a pas rebâti les écoles, on n'a pas... Finalement, c'est rendu... ça ne fonctionne pas. Si la mission avait porté fruit, si on avait pu, disons, renverser le régime pour ramener une sorte de démocratie et surtout une paix, est-ce que ton optique serait différente? Est-ce que c'est la conclusion qui fait que tu as la position que tu as ou il y a autre chose?
Je pense que de toute façon, même avec les meilleures intentions du monde, on n'aurait jamais pu de cette façon-là, ramener la paix,
c'est ça, entre guillemets. C'est ta position, que c'était voué à l'échec.
C'était déjà voué à l'échec pour plusieurs raisons, mais la première d'entre toutes, je dirais que c'est parce que déjà, même si on se présentait en libérateur à l'époque, on a fini par devenir des occupants, on a fini par devenir nous-mêmes des envahisseurs, parce qu'on arrivait puis on imposait nos façons de faire, on imposait nos modes de gouvernance, à un moment donné, pour un peu, puis les Afghans, bon, on appelle l'Afghanistan le tombeau des empires, c'est pas pour rien. Il n'y a pas une occupation étrangère qui a réussi à tenir là longtemps. Puis malheureusement, même si on se présentait comme libérateur, comme je disais, on a fini par devenir des occupants qui imposaient une façon de faire, qui voulaient peut-être qui voulaient créer là, un petit hameau politique là, où on pourrait contrôler ce qui est un peu, bon, finalement... ce qui est un peu les relations internationales depuis un petit bout de temps déjà. Là.
Et si je fais un mauvais lien, maintenant, il y a des occupants qui se sont installés en toi. Que ce soit des mauvais souvenirs, que ce soit des réactions, que ce soit des frustrations ou des choses pernicieuses que tu n'as pas vu venir. Bon, tu disais, il faut se désensibiliser. Comment fait-on d'abord pour accepter, parce que tu le dis, au début, là, on nie, on ne veut pas. Est-ce que ce sont des chums qui te disent « Martin, j'ai vécu ça, je pense que c'est ça qui t'arrive. » Est-ce que c'est toi qui en prends connaissance? Comment ça se déroule, tout ça?
Comme c'est quelque chose d'assez... c'est unique à chaque personne. Okay. Donc, je vais parler de ma propre perspective. Même quand des frères d'armes te disent, ou des sœurs d'armes, parce qu'il y en a, te disent, OK, je pense que ça va pas, tout ça, tu nies, ben non, moi, ça va, c'est correct, regarde un tel est bien pire, tout ça. Mais à un moment donné, il y a une prise de conscience parce que les symptômes sont là, ils deviennent vraiment évidents, tu performes plus au travail, tu te sacs de tout, tout ça. Et ça, c'est le côté de dépression de la chose, mais de l'autre côté, tomber sur ses gardes, par exemple, parce qu'il y a eu un bruit, puis tu regardes autour de toi, puis il se passe rien. Puis au travers de tout ça, ben quelques secondes, tu t'es retrouvé là-bas, tu as des flashbacks. Okay. Ça, c'est là que tu dis, OK, ouais, peut-être. Mm-hmm. Mais encore là, des fois, c'est pas assez. Moi, personnellement, ça m'a pris un voyage à l'urgence après une crise de panique, pour que je fais, OK, là, on va y voir.
Tu as écrit quelques bouquins. Est-ce que ça t'a tenté d'écrire là-dessus?
J'avais déjà commencé à écrire, à écrire sur le...
Je l'ai fait
par bribes déjà, mais c'est quelque chose que j'envisage.
OK. Mm-hmm.
Mais je me sens pas prêt encore à me livrer.
T'es pas assez détaché.
Non, c'est ça. Puis parce que je trouve que c'est tellement important de raconter comme histoire que on veut bien le faire. Bien le faire.
Mais en tout cas, avec la plume que tu as, moi, Martin, et le verbe que tu as, c'est un régal d'écouter parler Martin Forgue. Hein, Luc, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, à chaque fois...
Moi, je l'écoutais régulièrement à CIBL le matin.
Ah oui, non, c'est un réel plaisir d'entendre parler de ces chocs post-traumatiques dont on entend parler, mais on entend surtout finalement que le gouvernement fait pas grand-chose. Ce sera le sujet.
Médiatiquement, c'est sûr qu'on essaie toujours d'amener le sensationnel.
Exactement.
Les lacunes du gouvernement, les vagues de suicides, tout ça, mais autrement, effectivement, c'est un sujet qui...
Alors, merci d'en parler avec autant d'éloquence. On te réinvitera là-dessus sur le sujet.
Merci beaucoup, Clotilde.
Merci
Luc.
Salut.
Vous écoutez Aime l'été.
Loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises, près du haut loulou pressé, se console avec des scies. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. J'ai, quand se nourrir est un film, et nourrir les tiens ton rôle, la rue te donne quelques scènes tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles, mais pour demain, qui sait, qui sait, qui sait. Je veux du soleil, je veux du soleil du pays, je veux de soleil sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. D'autres affaires, on la pratique par défaut. Y'a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus tu y es, plus tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on aime, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long sur ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter, quitter, quitter. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays, je veux de soleil sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît, qu'est-ce qu'elle y connaît, qu'est-ce qu'elle y connaît.
vie, tu me t'en chéris. Rien de neuf dans ma rue. Juste qu'il allait aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue. Juste qu'il allait aller à pas d'avenir.
Ça, c'est ce qui s'appelle amener une chroniqueuse sur un plateau, mesdames et messieurs, avec la chanson Féfé qui chantait Dans ma rue. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Canalem et que vous écoutez l'émission Aime l'été avec Luc Fortin et Clotilde Seille.
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut s'abonner au balado d'Aime l'été?
Vous m'avez coupé le sifflet.
Oui, mais c'est parce que sinon, on était parti jusqu'à 1h30.
Mais non, j'allais envoyer Christiane.
Non, Christiane reste là. Elle veut t'envoyer.
Oui,
moi, je veux
fait,
que tu restes.
Il vient de s'adresser à la fille des coms. Je vais créer le podcast. Yeah! Vous avez bien raison.
Je vais
pouvoir
m'abonner.
Oui. Le podcast existera.
Alors
sur
abonnez-vous
iTunes,
à la maison.
Cet après-midi ou demain.
D'accord. Ah, excellent. Bon, alors bonne question.
Merci
ça
de
va
me rappeler.
Ça va vous être pardonné. Donc, Christiane, je vous laisse le crachoir.
Oui, ben moi, je suis venue vous parler de rues cet été, mais en fait, je me sers des rues comme prétexte pour vous parler de certaines personnes, de certains pans de l'histoire. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai vraiment une rue, un personnage qui n'est honoré que dans les rues de Montréal.
Oui.
Mais d'autres fois, il y aura des cas plus répandus, des Papineau, des Henri Bourassa, des noms qui reviennent dans plusieurs villes un peu partout. Mais Joseph Guibord, il a une rue seulement à Montréal, mais en fait, il en a deux.
Ah!
Sauf qu'il y en a une qu'on ne le sait pas.
Okay. OK, d'accord. Bon, alors allons-y.
Alors, il y a l'avenue Joseph Guibord, qui est dans le quartier Saint-Michel depuis 1987, mais on peut aussi l'associer à la rue Guilford. Mais pour ça, je vais vous laisser dans le suspense un petit peu.
Okay.
Puis je vais plutôt vous parler de la vie, non, pas de la vie, en fait plutôt de la mort de Joseph Guibord.
Joseph est plutôt connu pour sa mort que sa vie.
Il est davantage connu pour les années qui suivent sa mort.
C'est comme Kennedy,
oui, que sa vie. Je vais quand même vous dire quelques mots sur sa vie. Mm. Il est né à Saint-Anne-de-Varennes. En 1809, il pratiquait le métier de typographe.
D'accord.
Il aurait même, selon l'historien Jean Roquerioux, été le premier à introduire la stéréotypie au Canada. Et en voulant savoir c'était quoi la stéréotypie, j'ai appris que c'était un procédé qui permettait de faire peut-être pas les meilleures impressions, mais en grande quantité, et que c'est à l'origine du mot stéréotype.
Ah!
Petite parenthèse.
J'ai de la difficulté à voir le lien, mais...
Moi aussi, parce que stéréo, ça veut dire quoi? Ça veut dire des deux côtés?
Oui, mais c'est le fait que ça... C'est les copies, en fait, qui vient du... Qui est relié à l'affaire du stéréotype.
Je vais vous remonter un petit peu votre micro, parce qu'il me semble qu'on vous entend mal. Mais vous savez, moi, ça ne me dérange pas qu'on sache un petit peu la cuisine du studio. Et voilà.
Tout à fait.
Voilà. Donc, alors, il a travaillé pour différents imprimeurs. Il décède le 18 novembre 1869... mais ne sera enterré au cimetière catholique de la Côte-des-Neiges que le 16 novembre 1875.
Ah, je comprends pourquoi là c'est d'intérêt. Là.
Oui, il a donc dû patienter 6 ans dans un cimetière protestant en attendant. Parce qu'au moment de sa mort, il est membre de l'Institut canadien de Montréal et que ça lui vaut de se faire refuser la sépulture à Côte-des-Neiges, cimetière catholique, par le sympathique évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, un des personnages que je préfère le plus détester dans la vie.
Mais pourquoi voulait-il tant être enterré dans le cimetière de Côte-des-Neiges? Je veux dire...
Je pense que c'était important pour les gens à l'époque, probablement que le reste de sa famille était là, puis il était
le
catholique.
Prestige.
Il était catholique, même s'il
l'avait. Il l'était.
Il l'était.
C'est une maudite bonne raison.
Ben oui.
Sauf qu'il était membre de l'Institut canadien de Montréal. Et ça, c'était un péché. Et c'était même venu à un certain point passible d'excommunication.
Okay.
Fondé en 1844, l'Institut canadien, c'est une association et un lieu qui comprend une bibliothèque où se tiennent des conférences et des débats. Jusqu'ici, on dit « oh là là, la débauche hein? ». Mais la bibliothèque de l'Institut contenait des livres interdits par la congrégation de l'index du Vatican. On pense par exemple...
Donc, c'est un rebelle intellectuel ou un penseur ouvert.
Il lisait des choses horribles comme du Voltaire, du Diderot, du Victor Hugo et du Alphonse de Lamartine, imaginez-vous.
Non.
C'est du moins la raison officielle qui, qui vaut à l'Institut canadien les foudres de l'Église et de l'évêque, Mgr Bourget. Mais en réalité, c'est toute une lutte du clergé contre l'ensemble de l'idéologie de ceux qu'on appelle les Rouges, qui connaîtra son point culminant avec l'affaire Guibord.
Donc, on s'est servi de lui, un peu.
Oui, disons, il a été la victime collatérale à cause du mauvais timing de sa mort. L'Institut, c'est le lieu de rassemblement du Parti Rouge et de ses sympathisants. Ce sont des descendants des patriotes et tout particulièrement de Papineau. Ils font la promotion du républicanisme, du suffrage universel, de la séparation des intérêts de l'Église et de l'État. À une certaine époque aussi, de l'annexion aux États-Unis, c'est une autre histoire. Certaines têtes d'affiche du mouvement, comme Louis-Antoine Dessaulles et Jean-Baptiste Éric Dorion, affichent haut et fort leur anticléricalisme dans des débats épiques par journaux interposés avec le clergé de Montréal. Alors, l'évêque condamne une première fois l'Institut en 1858 dans une série de lettres pastorales. Et ça a déjà un effet. Il y a une partie des membres moins radicaux qui quittent pour aller former l'Institut canadien-français qui respectera davantage, disons, les décisions de l'Église.
Okay.
En juillet 1869, Rome condamne officiellement les doctrines de l'Institut canadien. Et Mgr Bourget dira en nous, « Celui qui persiste à vouloir demeurer dans le dit institut ou à lire ou seulement garder l'annuaire sans y être autorisé par l'Église, se prive lui-même des sacrements à l'heure de sa mort. »
Sait-on à quel moment Joseph Guibord a intégré l'Institut? Et c'est pas grave si on le sait pas, là.
Non, je ne le sais
pas.
Alors, Louis-Antoine Dessaulles soutient qu'à son chevet, Joseph Guibord a reçu l'absolution et la communion. Cependant, écrit-il, le confesseur, apprenant que Guibord est membre de l'Institut, revient en toute hâte lui dire qu'il n'aurait jamais dû lui donner l'absolution et exige sa résignation comme membre. Et Guibord, toujours selon Dessaulles, aurait refusé. Mgr Bourget refuse donc qu'il soit inhumé en terre consacrée. Henriette, encouragée et accompagnée par les dirigeants de l'Institut, entreprend une bataille juridique contre cette décision. La cause se règle 5 ans plus tard devant le Conseil privé de Londres, qui était notre cour supérieure, si on veut, à l'époque. Et puis, les juges du Conseil ordonnent que Guibord soit enterré au cimetière de la Côte-des-Neiges.
Quand même étonnant que, là, on mélange, que Londres ait préséance sur les décisions de l'Église.
Oui, là, je ne connais pas les détails du procès, mais ça s'est vraiment réglé comme ça, mais c'est pas terminé. Parce que l'Église a de l'influence à l'époque et on essaie une première fois de l'enterrer en septembre 1875, mais une foule de manifestants indignés fait échouer cette tentative. Et l'inhumination va finalement avoir lieu en novembre grâce à la présence d'une escorte militaire armée.
Wow!
Quand même!
Alors, c'est comme ça que notre ami Guibord se fait finalement enterré. Mais Mgr Bourget, là, il n'a pas laissé ça comme ça. Là. Il est allé désacraliser le petit carré de terre. et a même dit que le lieu de sépulture sera à jamais interdit et séparé du reste du cimetière.
Hey, j'ai presque envie d'aller à sa tombe juste pour l'honorer. Est-ce qu'il est encore là, Joseph Guibord? Est-ce qu'on peut encore à Côte-des-Neiges voir sa sépulture? Savez-vous?
Je ne vois pas de raison pour laquelle il n'y serait pas. Il n'a pas été redéménagé depuis. Mais là, le lien avec la rue Guildford...
Alors, c'est quoi?
Parce qu'en 1876, la rue Guildford, qui vient d'être ouverte, est nommée Guibord. Mais il n'y a pas des petites affiches à tous les coins de rue. Dans ce temps-là, par contre, il y a des atlas, des compagnies d'assurance qui tiennent des atlas très détaillés de la ville de Montréal. Et dans l'une d'elles, mais les compagnies sont souvent anglophones, la rue est nommée Guildford. Et ça restera
autrement dit, c'est une erreur.
Longtemps. Tout à fait.
Mais il y aurait eu 2 rues Guibord, en théorie.
Ben probablement que s'il y avait eu la première, on n'aurait pas nommé une autre rue Joseph Guibord en 1987.
Ah, oh, c'est en 87.
La deuxième,
dans
Saint-Michel. Oui, c'est ça. C'est des nouveaux.
Ce sont des diffusions avant la diffusion.
Ce sont des nouveaux développements.
Oui.
Question. Oui. On a tout à l'heure notre ami Jean-Sébastien. Il y a un des bénévoles ici qui lui a dit et il a parlé de la rue Gilfort.
C'est ça, il y en a qui prononcent Gilfort à cause du manque de U.
Ah, mais en anglais. Ah, j'ai toujours dit Guildford,
ben,
personnellement.
Tout le monde dit Guildford.
Mais j'ai pas vérifié
Pas anglais, de toute façon, Guibord. C'était un francophone.
Oui, mais la personne qui a fait l'erreur a carrément mis un mot anglais. Parce que je suis allée voir qu'est-ce qui s'appelle Guildford dans la vie. En allant tout simplement sur Wikipédia, ce sont que des noms anglophones, des acteurs, des actrices et des comtés en Ontario, en Irlande et compagnie. Donc, ça n'a rien de il y a rien en français qui s'appelle Guildford.
Donc, à la limite, Gilfort, ce serait comme légitime qu'on appelle ça comme ça, parce que s'il n'y a pas de U, ça fait J comme Gilles.
Ça pourrait, ça si pourrait. Vous voulez, si vous voulez le prononcer à la française, mais de toute façon, c'est difficile de...
Coup de
théâtre. Non, parce que alors, les Français et Guilford, j'aimais vous dire que moi, j'ai habité Guilford et j'ai failli déménager à cause de ça sur Marianne, parce que moi, c'était plus facile à dire.
Bon. J'ai déjà vu le contraire, ceci dit, j'ai déjà vu des Français prononcer à l'anglaise des mots qui
absolument
étaient complètement francophones.
Christiane Campagna, c'est un régal de vous entendre. On va vous retrouver comme ça, quoi, chaque semaine, vous allez venir nous parler?
Oui, chaque semaine, je vais même vous enregistrer un petit quelque chose pour mes vacances.
Yeah. Oh. Merci.
Je vous en prie.
فشت البحر نروح بعيد ونتفكر ونشوف اللي راني هنية احبابي وناس بعد عليا وانتي يا مومو عينيا في قلبي راكي ساكنة في قلبي راكي ساكنة
Saveur d'Algérie, c'était Mona qui nous chantait Sekna.
Merci beaucoup, mon petit Mathieu. Bonjour, Yannick-Olassa.
Bonjour.
Ah, quel bonheur de retrouver cette voix. Je voudrais préciser, Yannick, que vous étiez à un moment donné et que vous serez à nouveau certainement une habituée de l'émission Des livres pleins les oreilles et que vous avez accepté cette année à M l'été de venir nous présenter des livres. Oui, et je vous en remercie. Oui.
Mais ça me fait plaisir, comme toujours. Hein. Le 6 mois que j'ai pris a été bien long.
A été bien long. Finalement, est-ce que vous avez écrit parce que c'était un petit peu le but de la chose? Hein? Je pense que ça a été plus compliqué que ce qu'on pense, finalement.
Oui, tout à fait. Ben, j'ai écrit, mais et je continue à écrire, mais avec un autre, comment je pourrais dire, avec dans d'autres délais, dans une autre humeur totalement.
Bon, très bien. Alors, Yannick, blogueuse, chroniqueuse, littéraire, on vous écoute. De quel livre nous parlez-vous et quel est l'auteur?
Je vous parle de « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » de Anthony Doerr, qui est un gros pavé de 600 pages.
Ah oui, quand même.
Auquel l'auteur a consacré quand même 10 ans de sa vie.
Mmh. Wow!
Et
je vous
dirais que ça paraît.
Quand on dit Doerr, il est de quelle nationalité? Est-ce que c'est un Français?
C'est un Américain.
C'est un Américain. OK.
Oui.
Bon.
C'est un Américain qui était qui est tombé en amour avec Saint-Malo, qui a voulu écrire un roman.
Oui.
Et le roman, en fait, se passe entre 1940 et 1944. On se promène entre la France et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Guerre, que je dois dire, est en second plan un peu dans l'histoire. Parce qu'on va suivre, en fait, on va vivre la guerre à travers Marie-Laure, qui a 16 ans, et Werner, ou comme on dit en allemand, Werner, un jeune orphelin allemand. Donc, les personnages, je vais vous les situer un petit peu. Marie-Laure, qui est une jeune fille qui a perdu la vue à 6 ans.
OK.
Des suites d'une maladie. Et son père, qui est serrurier au Musée d'histoire naturelle ou au Jardin des plantes à Paris, lui confectionne des maquettes du quartier afin qu'elle puisse s'y retrouver. Donc, elle apprend les quartiers par cœur avec ses doigts et elle est capable là, de vraiment se retrouver dans le quartier et d'être autonome, hein, parce qu'on s'entend qu'en 1940 et même avant, c'était pas aussi facile, même si ce n'est pas facile aujourd'hui quand même. Toujours est-il que c'est cette jeune fille-là qui, avec son père, fuit Paris pour aller chez un grand-oncle à Saint-Malo. D'un autre côté, on a Werner, qui est un jeune orphelin allemand aux cheveux blancs, qui est destiné à travailler dans une mine dans sa petite ville. Et en fait, il est un sorte de génie de la physique qui peut réparer toutes les radios les plus sophistiquées. Et bien sûr, son talent va être remarqué par la Wehrmacht, par les nazis. Et il va être recruté pour traquer les transmissions radio de la résistance. Mmh. Alors, on part à peu près de là et on va les suivre pendant 4 ans. Et ce sont de très, très courts chapitres, ce qui fait qu'on est accroché. Et on va les suivre de la façon dont ils vivent chacun de leur côté la guerre, hein, le côté de l'envahisseur, le côté des gens du pays occupé, mais à travers leurs yeux, si je peux dire, ou leur vécu de jeunes adolescents, d'adultes en devenir. Les personnages sont vraiment attachants. On est happé par leur histoire, mais vraiment, je vous dirais, happé. Pas comme dans un polar, mais dans une bonne histoire où on veut savoir ce qui se passe avec les gens.
Yannick, c'est écrit au jeu ou à la troisième personne, comme si un narrateur était à l'extérieur de l'histoire? Est-ce que les deux personnages se racontent ou...
C'est à la troisième personne pour les deux personnages. Donc, ça permet aussi d'aller beaucoup plus en profondeur dans ce qu'ils vivent, parce que quand c'est écrit au jeu, il y a seulement quelques perspectives qu'on peut explorer, tandis que là, on va en explorer beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est que les sens sont très présents, les odeurs, les textures, les bruits, bien sûr, parce que comme Marie-Laure est non-voyante, elle se réfère à tous ces autres sens-là pour s'orienter dans le monde, se repérer dans le monde. Et je vous dirais que, bon, on me dit « Ah, ben c'est un livre sur la guerre ». Non, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas sur la guerre, mais plutôt sur l'enfance, sur les passions. Je vous dirais que le ton est presque léger malgré la guerre. Mmh. Il y a une beauté, une poésie, là, une sagesse et un mystère. Et pour vous titiller un peu, je vous dirais qu'il y a la légende, il y a une légende d'un diamant rare qui s'appelle l'Océan des Flammes, qui serait un diamant lié à une malédiction.
Est-ce que vous avez le livre sous la main,
oui, Yannick? Absolument.
Est-ce que vous nous en liriez un petit bout?
Absolument, totalement.
Oh, j'aimerais ça.
Prête à le faire.
On dirait tellement pas que c'est préparé.
Eh bien, même pas.
Non,
Luc, il est terrible. Eh bien, c'était même pas préparé parce que je m'aperçois, Yannick, que j'avais oublié de vous demander de nous en préparer un extrait. Alors là, je n'avais qu'une peur, c'était que vous me disiez « Ah non, malheureusement, je l'ai prêté à mon beau-frère. » Et ou alors, il est dans ma voiture, genre. Alors, j'avais très, très peur de ça. Bon, alors je...
Bon. Je vous en lis, je vous situe un petit peu, parce
d'accord.
que ça va être un passage plutôt court. Marie-Laure, elle est dans la maison de son grand-oncle, et il y a un intrus, un Allemand, qui est entré, et elle se cache au grenier. Si l'Allemand rouvre l'armoire, écarte les cintres, se glisse jusqu'ici, que faire? L'assommer avec le parapluie, lui donner un coup de couteau, hurler, mourir, papa. Elle rampe le long de la poutre centrale d'où irradient les étroites lames du plancher. Cette poutre est la plus épaisse et sera la plus silencieuse. Elle espère qu'elle n'est pas désorientée. Elle espère qu'il n'est pas derrière elle en train de la mettre en joue. À travers les évents de la toiture, on entend des chauves-souris pousser des cris presque inaudibles et à distance, sur un navire militaire peut-être, ou bien après paramé, des tirs nourris. Crac, crac, puis le long hurlement qui accompagne la trajectoire de l'obus et ce coup sourd quand il explose sur un îlot. Une glaçante terreur l'envahit, imperméable à la réflexion, une trappe tout au fond d'elle-même qu'il faut refermer, condamnée à tout prix. Elle enlève son manteau, l'étale sur le sol. Elle n'ose pas se relever de peur de faire du bruit. Le temps s'écoule. Rien aux étages inférieurs. Serait-il parti si vite? Bien sûr que non. Elle sait après tout pourquoi il est ici. À sa gauche, plusieurs câbles électriques se faufilent sur le sol. Juste devant elle, le carton plein de vieux disques. La Victrola à manivelle, sa vieille machine à enregistrer, le levier qu'il utilisait pour hisser l'antenne le long de la cheminée. Elle replie ses genoux contre sa poitrine et tente de respirer par la peau, sans bruit, comme certains mollusques. Elle a les deux bocaux, la brique et le couteau.
Un extrait de...
Voilà.
Du livre de M. Doer, je vais vous aider,
Luc-Anthony
Doer, « Toute la lumière que nous ne pouvons voir », présenté aujourd'hui par Yannick Olassa. Ça donne envie, hein?
Et Yannick, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas la seule à avoir aimé ça.
Ah,
absolument oh, mon Dieu, non,
pas, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner qu'il a gagné quand même le prix Pulitzer en 2015. Oui.
Un détail.
Donc, c'est ça, un détail. C'est un petit bijou de livre. Et on l'a lu au sein de du club de lecture auquel je participe. Et on était tous unanimes à l'effet que c'était un bijou.
Merci Yannick Olassa, vraiment, pour ce livre-là, « Toute la lumière que nous ne pouvons voir », présenté donc par Yannick, un livre d'Anthony Doer. Yannick, on vous retrouvera toutes les deux semaines. Hein,
oui.
À cette émission avec un grand, grand plaisir tout l'été. Merci d'avoir accepté.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Pour les curieux, Doer, D-O-E-R-R.
Il me semble qu'on a fait ça toute notre vie, Luc, animer les émissions ensemble. Hein?
Oui, mais il est temps qu'on s'en aille. Mon eau gazéifiée citronnée est terminée.
Ah, la bouteille est vide et notre estomac aussi. Alors, on va vous laisser.
Mais merci de m'avoir invité.
Oh.
Oui, parce que moi, je serai là avec Anne-Laure les lundis, une fois qu'il n'y aura plus de lundi férié.
Oui, c'est ça.
Mais c'était fort agréable.
Oh, ben, tant mieux, Luc. Et puis, ben, si à un moment donné, quelqu'un vient à manquer, je saurai qui appeler.
Ben oui, vous le ferez.
Oh, oui, je le ferai. Merci à tous les invités, évidemment. Merci à nos recherchistes, Anne-Laure Janson et à Catherine Bourderon. Le poisson aujourd'hui dans l'aquarium de l'autre côté, c'était Mathieu Tessier. Et c'était Clotilde Seille et Luc Fortin qui vous parlaient. Salut, bonne journée. Bye, Luc. Merci.
Salut.